Donc voilà, vous êtes en direct avec votre émission des mouvements Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. En définitive, c'est la voix des victimes amplifiée dans ce micro qui dénonce l'abus de l'autorité, l'impunité de celles et ceux qui violent quotidiennement la limite de leur pouvoir. Une voix inquiète, soucieuse, tirant sans cesse en répétition en persistance l'alarme d'avertissement que les citoyens souffrent d'injustice et réclament l'égalité de tous devant la justice. Devant de tels constats, le gouvernement, au lieu de prendre ses responsabilités à la lettre, il adopte plutôt la politique de l'autruche par des projets de loi insensés, par le silence et la négligence, un non-respect, aucune considération, voire une insulte pour le citoyen. Vous savez aussi, chère auditrice, chers auditeurs, que l'autorité impose aux citoyens des lois et des règles à suivre, un code rigide et moins rigide à respecter, mais dans le cas contraire, quand l'autorité fait défaut et commettre des transgressions majeures ou mineures, qui va le rappeler à l'ordre? C'est l'interrogation qui s'impose d'elle-même et nous sommes malheureusement confrontés de réfléchir ensemble et répondre au même temps. Puisqu'il s'agit d'une seule réponse, il est question d'une autorité hautement supérieure qui a perdu son plein pouvoir graduellement. Alors cette autorité suprême qui est supposée d'intervenir au moment où l'appareil de l'État dérape, cette autorité suprême, c'est vous, chère auditrice, cher auditeur, le public, le peuple, qui a la légitimité et le devoir de redresser la raille pour que le train arrive à destination. Nous avons ce privilège quasiment absolu, qu'aucune autorité ne pourra et d'aucune façon nous enlever. Et si nous sommes aujourd'hui moins respectés, moins considérés ou plutôt négligés de la part du gouvernement et ses officiers, c'est justement parce que nous avons perdu cette vocation de l'être et de conserver ce privilège. Vous savez tous qu'une société, entre parenthèses, comme la nôtre, intelligente, consciente, gagne, si vous voulez, cette position d'équilibre, devoir, obligation, responsabilité, assumée et partagée entre le citoyen et l'appareil de l'État, fait justement de cette société le modèle souhaité et rêvé par plusieurs. Ce n'est pas une chose impossible ou tout à fait loin d'être réalisable, je pèse mes mots, et je suis convaincu qu'on peut, dans le respect de l'autre, aboutir à cette société juste, égalitaire et modèle par excellence. Je suis aussi doublement averti et conscient que le travail pour aboutir est énorme et rien n'est gagné d'avance. Est-ce que ça vaut le coup? Maintenant, oui, chère auditrice, cher auditeur, et pour le moins faisons-le pour la génération, pour les générations, si vous voulez, futures, faisons un héritage honoré par nos efforts et ciblons au plus haut degré la justice, puisque c'est le pilier qui tient le tout et qui tient aussi le toit d'une société. Rien n'est plus important que la justice et rien n'est pire que l'injustice. Sur un tel chantier, par quoi commençons-nous? Au départ, chers auditrices, chers auditeurs, il faut sensibiliser à l'extrême ces fonctionnaires de l'État qui bénéficient largement de l'impunité, puis notre devoir premier, c'est celui de la rappeler constamment que l'injustice et l'abus de pouvoir n'aboutiront, en fin de compte, que d'affaiblir une société si ce n'est pas la démolir complètement. Les rappeler constamment en dénonçant leur attitude inacceptable, leur comportement déplacé, leur négligence insoucieuse, bref, le manque à leurs devoirs et à leurs obligations. Leur dire qu'au-delà de toute injustice, pardon, il y a une justice, hein, qu'ils peuvent passer inaperçus aujourd'hui, demain, après-demain, mais un jour, sûrement, non. Sachez, chers auditrices, chers auditeurs, que chaque fois que je reçois une victime de l'autorité, de l'injustice, chaque fois que je me sens impuissant de faire quoi que ce soit pour lui rendre justice personnellement, et je ne le cache pas, je me sens malade. Et je ne comprends de plus en plus moins l'agissement des abuseurs et comment ils peuvent en sortir à répétition, sans aucune égratignure judiciaire. Comment l'autorité protège et sans gêne aucune l'ordure de son autorité. Je vous rappelle aussi que l'impunité fait ravage et endommage la conscience collective de cette société. Et enfin, reste-t-il finalement un espoir pour que nos politiciens et les responsables concernés agissent en conséquence de cause afin de renforcer cette barrière de limite un peu trop dépassée par négligence. Avec vous ce matin, Adj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme de but non lucratif qui est supposé, entre autres, faire la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer l'arabie de pouvoir, mais en réalité nous sommes impuissants et condamnés, chers citoyens, comme vous d'ailleurs, d'attendre un renfort de force et de solidarité pour faire bouger les choses. Voilà donc, avant de vous laisser avec notre thème musical, je vous rappelle l'équipe de Mage qui m'entoure et qui assure le déroulement de cette émission. Mon collègue Roland Cazès, fidèle à cette émission, Monsieur Robin Edgar qui vient d'ajouter à l'effectif, Madame Rosemonde Legault, notre technicien de son, et finalement Clara, cette fille mystérieuse qui intrigue tout le monde ici dans le studio. Je vous rappelle aussi que dans la seconde partie de cette émission, nous avons une victime d'abus de pouvoir qui a souhaité vous faire part de ses inquiétudes et ses soucis. Nous allons lui céder la parole pour écouter son témoignage. Elle travaille dans le milieu carcéral. Elle aussi, elle n'a jamais pensé être victime à son tour. Mais avant tout ça, nous sommes obligés de vous rappeler de la mort aussi de cet itinérant abattu par un agent de la police de la SPVM le 6 janvier de ce mois. Et comme il n'y a personne qui s'intéresse visiblement à cette mort gratuite qui a pu être évitée, alors c'est à nous de le faire. Voilà, si vous êtes victime ou témoin d'abus de pouvoir ou d'injustice, appelez-nous au 514-273-4302. Je répète, 514-273-4302 ou bien nous écrire à info@commercial-québec.com. info@commercial-québec.com. Restez à l'écoute, chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup d'héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. c'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Donc voilà, rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Nous sommes de retour à notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Comme nous n'avons pas entendu d'ailleurs parler ces derniers jours nulle part de monsieur Farshad Mohammadi, cet individu qui a été abattu par un agent de la SPVM le 6 janvier de ce mois à la station du métro Bonaventure, alors nous allons le faire ensemble ce matin. Je vous informe que le coroner en chef adjoint nous a écrit pour nous informer que nous ne pouvons pas avoir accès au corps de monsieur Farshad puisque nous avons fait la demande. Le coroner nous a informé que le corps de M. Farshad était libéré et qu'il était satisfait des observations des pathologistes qui ont procédé à son autopsie médico-légale. Je vous informe aussi, chère auditrice, chère auditeur, qu'il y avait une cérémonie au salon funéraire dans l'Est de Montréal, mercredi de cette semaine, où le cercueil qui contient la dépouille de M. Farshad était exposé entre 19h et 21h. Nous vous informons aussi que les autorités concernées avaient planifié d'enterrer M. Farshad jeudi, je parle de la journée de hier, mais à la dernière minute, cette décision a été annulée selon nos informations. Le coroner a pu retracer la famille de M. Farshad. Vous devrez comprendre que le tout est hautement confidentiel et aucune participation ou couverture médiatique, à notre avis, était prévue pour cet événement. Dans le salon funéraire, d'ailleurs, notre collègue Edgar Robin, qui avait suivi cet événement, va mieux nous éclairer. Mais une chose certaine, à part quelques itinérants et des travailleurs sociaux et les travailleurs du salon funéraire, il n'y avait personne, aucune personnalité politique, je dis bien provincial ou municipal, était dans le décor. La seule personne qui s'est déplacée pour cette cérémonie, c'était Madame Marie-Claude Morin, députée des NPD et porte-parole du logement et membre du comité permanent de la sécurité publique. Elle était présente et je l'ai contactée par la suite pour connaître le motif de sa présence et elle a répondu par solidarité, monsieur. Donc, qui vous a informé de cette cérémonie? Madame n'avait pas l'air de savoir non plus et elle disait que c'était son attaché politique. Connaissez-vous la source de l'information? Là, il y avait un blocage total. Bref, Madame la députée de Saint-Hyacinthe a apparemment été très touchée par cette tragédie. Maintenant, est-ce que le rapatriement de la dépouille de M. Farshad vers le pays d'origine va servir le gouvernement de se débarrasser le plus rapidement possible, le plus loin possible des cadavres et peut-être annoncer plus rapidement un non-lieu en faveur de l'agent impliqué directement dans la mort de cette victime? Une chose certaine, c'est que depuis la mort de cet itinérant, quelques jours de blablabla dans le vide, d'ailleurs, par plus particulièrement de la part des médias, rien qui s'attache à la scène du meurtre, puis après on parle plus de la victime. On comprend vite que la vie d'un itinérant n'est pas importante, la vie d'un sans-abri, alors qu'il est mort justement ou injustement, n'a pas d'importance non plus, un marginal de la société trop encombrant. Il faut peut-être se débarrasser le plus tôt possible, mais le nombre de ces gens, il est très élevé, on parle de 30 000 au Québec, de 20 1000 à Montréal, et je vous assure, avec la situation économique actuelle, ça va augmenter encore. Vous voyez que ça devient de plus en plus sérieux, et ce n'est pas des paroles ou des sorties médiatiques qui vont régler les problèmes, mais il faut agir avec le souci et le désir de changement. Vous voyez clairement que informer le public des funérailles de M. Farshad et de la suite des événements sont jugés non nécessaires et fermer le tout dans la haute confidentialité est la meilleure chose pour le gouvernement. Je vous rappelle aussi que M. Farshad Mohammadi était abattu par un policier de la SPVM le 6 janvier de ce mois. Dans la station du métro Bonaventure, la police, avec ses explications, tentait de nous faire croire qu'il s'agissait d'une légitime de défense, puisqu'un des deux policiers qui ont interpellé M. Farshad, était blessé au cou par la victime de cette fusillade. D'autres témoins trouvent insensé de tirer sur un individu aussi vulnérable que M. Farshad. M. Farshad, rappelez-le, tentait de fuir le lieu vers la sortie du métro quand il était abattu. Donc la position de la fuite affaiblit lourdement et la thèse justement de la menace. Encore dans cette situation-là, tirer une balle, ça peut avoir tout un débat. Mais la deuxième balle et la troisième balle étaient franchement non nécessaires pour un homme qui n'a jamais eu aucune attention préalable d'attaquer ou d'agresser qui que ce soit. Je vous rappelle, chère auditrice, chers auditeurs, rapidement, que M. Farshad n'avait pas de famille ici au Québec, ni de proches. Il était un sans-abri après avoir été expulsé de son appartement par l'ordre d'un juge des régies du logement. Le motif, M. Farshad avait accumulé un retard de paiement de son loyer. On part d'une somme de $215. Je vous rappelle qu'il était expulsé par un huissier et des policiers de la SPVM. Et depuis ce jour-là, il a pris, ou plutôt il a repris son statut de sans-abri. Il n'a jamais pu se reprendre en main. Il vivait d'ailleurs dans la rue quand il a été intercepté par la police le mois de février 2009. C'était une grande tempête de neige et M. Farshad n'avait aucun choix de trouver un refuge contre le froid dans un immeuble inhabité. La police l'a arrêté pour introduction par infraction. Il passe 7 mois de détention, soi-disant préventive. À la fin, le juge le condamne à une journée de prison. Un juge, bien sûr, ridicule, comme les policiers qui l'ont arrêté et l'enquêteur dans ce dossier. Et finalement, la couronne avait appuyé et renforcé le clou. Vous voyez, quand l'appareil judiciaire est aveugle, dès le départ, des dégâts sont énormes. En 2010, un commissaire à l'immigration suit la chute et responsable de l'appareil de l'État et condamne M. Farshad d'être expulsé du Canada. Pourquoi ? Pour grande criminalité. Donc, quel est le grand crime qui a commis par notre itinérant afin de mériter une telle sentence? C'était une fameuse nuit de février où M. Farshad s'était introduit dans un immeuble inhabité pour se réfugier contre le froid et pour laquelle il était condamné pour une journée de prison. Une condamnation plutôt absurde, mais après 7 mois de détention préventive, injustement, le reste n'est pas comparable. Lors de l'expulsion, jette finalement M. Farshad dans l'incompréhensif. Comment il va être renvoyé chez ses ravisseurs et quel était son sort là-bas? Donc le goût à l'alcool s'aggrave et l'attente devient interminable. Alors graduellement, l'esprit lâche prise et le monde devient flou pour M. Farshad jusqu'à cette fameuse rencontre non planifiée avec les policiers le 6 janvier de ce mois. Il s'est réfugié dans la station du métro Bonaventure en quête d'un peu de chaleur. C'est là finalement où un policier de la SPVM l'avait abattu par 3 projectiles alors qu'il était en train de fuir le lieu en demandant de lui ficher la paix. C'est triste comment les hommes finirent leur vie dans le pays des refuges, le pays des rêves. Chères auditrices, chers auditeurs, nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons avec mes collègues Roland Cazès et Edgar Robin pour plus de détails.
Continuer de l'engraisser, mais aussi petite soit la mienne de paye, j'en ai besoin pour bouffer. Je fais des trous dans ma ceinture, un par jour pour mieux gérer le minimum que cette enflure se croit obligée de me céder. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y en a qui auront jamais de problème. Et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Je le croise devant l'usine, dans sa belle BMW, dans sa Porsche ou bien son Alpine, suivant ce qui l'a motivé. Moi je carre mon vélo depuis qu'ils ont décidé, afin de relancer le marché de l'auto, d'interdire aux poubelles de rouler. Il a les fringues toujours impec, les mains propres et jamais tachées. Moi mes paluches je bosse avec, et mes neurones sont élimés. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème. Et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Il a des potes en politique, des plantes grasses à arroser, de celles qui jamais ne lui piqueront le cœur de son chéquier. Ils ont le cumul sympathique de maire et de député. Ils ont la morale cathodique et le chômage suranné. Peu importe l'ascenseur qu'ils aiment à se renvoyer, peu importe, puisque l'erreur, c'est qu'on est trop dans l'escalier. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème. Et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Combien de temps encore va-t-on se laisser faire?
Jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème. Et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent.
Rebonjour, chère auditrice, cher auditeur. Donc voilà, je reviens avec mon collègue Edgar Robin qui a été qui a assisté à sa cérémonie le mercredi. Bonjour Edgar.
Bonjour.
Vous étiez à la cérémonie mercredi passé à 17h.
Oui,
je peux savoir comment vous avez pu savoir qu'il existait cette cérémonie.
Bah, effectivement, ça fait presque 2 semaines depuis que j'ai essayé de trouver.
Essayez de se retracer, suivez un petit peu les
oui. Puis. Finalement, j'ai trouvé que c'était un groupe qui s'occupe des sans-abri, surtout celles qui ont des problèmes psychiatriques, Diogène, et sans-abri qui s'occupe de les funérailles pour M. Fachad. Puis,
et vous avez appelé, j'imagine que vous avez appelé plusieurs fois pour.
Bon, c'est ça, j'ai appelé il y a presque 2 semaines, ou même peut-être. 15 jours.
Oui.
Puis j'ai pas eu de réponse. Puis finalement, je pense que c'était mercredi, on a finalement eu contact.
Oui.
Mais c'était toujours pas clair. J'ai laissé des messages, il y avait un peu de manque de communication. Finalement, vers 5h mercredi, Bertrand Gagné, le directeur de Diogène, m'a appelé.
Oui.
Puis c'était à ce moment-là qu'il m'a informé qu'il y avait une cérémonie, on peut dire, mais c'était plutôt ce qu'on appelle en anglais wake. C'était vraiment juste des gens qui sont venus pour dire quelques mots. Mais ça, il a dit qu'il y avait quelque chose
Le cercueil était là, le cercueil de la dépouille, de M. Farchad.
C'est ça. Il a dit qu'il y avait quelque chose entre 7h et 9h la nuit. Puis c'était confidentiel. J'étais pas supposé de parler de ça.
C'était hautement confidentiel. Personne ne devra parler ou savoir quoi que ce soit de M. Farshad.
Ouais, au moins cette cérémonie-là, c'était confidentiel. Alors, je suis allé.
Vous étiez allé quand même, vous êtes rendu là-bas.
Je suis arrivé un peu.
Pouvez-vous décrire à nos auditeurs qu'est-ce que vous avez vu dans ce salon, Fineret? Qui était là?
Ouais, c'est ça. Quand je suis arrivé, il y avait peut-être 7 ou 8 gens. Il y avait le député, Marie-Claude Morin.
Elle c'est la seule visage politique qui était là.
C'est ça, le seul. Oui, et au début, j'ai pas compris qui elle était. Oui. Il y avait aussi des gens de Diogène, M. Bertrand Gagné était là, Jessica Soto était là aussi. Il y avait...
Il y avait des itinérants aussi.
Il y avait, c'est ça, les gens de Diogène ont amené peut-être une demi-douzaine d'itinérants. Ah, donc, les gens qui sont dans le programme de chez soi.
C'est-à-dire que les itinérants, ils n'étaient pas avisés. C'est Diogène qui sont allés chercher ces
Je pense qu'ils ont invité un certain nombre de gens qui ont connu M. Farshad.
Mulemer Tremblay ou toute la gamme.
Il n'y avait personne. Donc, j'étais un peu surpris de ne pas voir Amir Kadir parce que j'ai pensé que lui, elle a voulu... avoir une cérémonie séculaire et c'était quand
peut-être
même...
Peut-être qu'il n'était même pas informé aussi. Hein.
Ça, c'est passé. Peut-être qu'il n'était pas au courant.
De toute façon, on va l'appeler.
C'était fait en grand secret, quoi.
Exactement. C'est ça qui intrigue le monde.
Hein, il y avait un journaliste. Il y avait un journaliste de radio de...
Anglophone.
C'est ça. CGAD. C'était Michel... Michel Boyer, si je ne me trompe pas. Il était là. Il a pris des notes, il a posé des questions, il a fait des interviews.
Je pense qu'ils ont...
Francophone, il n'y avait rien.
Souvenez-vous d'une chose que je voudrais remuer, brasser un peu. Souvenez-vous que M. Maroni, une fois, là, pour ses élections, il avait été chercher 2 autobus d'itinérants à la maison du père pour faire voter, pour se faire passer dans son vote. Comment ça se fait que tout d'un coup, on tire sur les itinérants alors que des fois, on s'en sert pour les élections quand on est député comme M. Maroni?
Et voilà. Donc, écoutez, là, on va faire une avance publicitaire avec une pause musicale et on revient avec la fin de, avec la continuité de l'événement.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et la bosser pendant des jours.
Aimeriez-vous donner un coup de pouce à votre chiffre d'affaires? Votre entreprise est-elle dans la grande région de Montréal? Aimeriez-vous rejoindre de nouveaux clients potentiels? Radio Centre-Ville vous invite alors à vous faire connaître davantage. Plusieurs auditeurs de diverses communautés de Montréal pourront entendre parler de votre entreprise sur nos ondes. Pour vous renseigner sur les communautés que nous rejoignons et sur les possibilités qui s'offrent à vous sur Radio Centre-Ville, téléphonez au 514-495-8836. 495-8836. Ou écrivez-nous à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de votre entreprise sur Radio Centreville.
Ne manquez pas Voyages musicaux,
Nuit à Tatron,
une émission de découverte musicale de Montréal
à Hong Kong,
à Shanghai, en passant par le monde entier.
Avec Simon Onkantner
et Sabina Amandada, tous les mardis soirs de 22h30 à 23h30 sur les ondes de Radio Centreville, 102.3 FM.
Est-ce lundi soir ou mardi matin? La ville semble dormir et pourtant, savais-tu qu'entre 3 et 6 heures AM, l'espace s'ouvre sur des univers fantastiques et jouissifs? Des légendes oubliées, des vortex encore plus explorés, parfois même un peu tordus. Piloté par Alain Caron, l'émission L'Académie attise déjà ta curiosité. Il te faut l'écouter en direct ou en podcast à radiocentreville.com.
Nous représentons la réalité multiculturelle de Montréal. Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. En matière de musique, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Oui, voilà donc de retour, chers auditeurs, chers auditeurs, à notre émission du Mouvement Action Justice. Je cède la parole à Monsieur Edgar Robin qui a enquêté un petit peu dans le dossier de Monsieur Farshad. Vous étiez le mercredi dans Salon Funérailles. Pouvez-vous décrire aux auditeurs qu'est-ce que vous avez justement vu et qu'est-ce que vous avez observé?
Comme j'ai dit, quand je suis arrivé, il y avait peut-être 7 ou 8 personnes. Oui. J'ai déjà décrit ça. Puis à fur et à mesure, il y avait d'autres gens qui sont venus. Vers 8h30, il y avait environ une trentaine de gens.
Maximum 30
oui,
personnes.
Maximum
20-30.
Non, c'était plutôt 30 que 20. Okay. C'était vraiment 30, plus ou
mais
moins.
Mais tout ce qu'on veut savoir, c'est dont ces gens-là, il n'y avait pas de visage politique.
Aucune, à part de ça. Marie-Claude Morin. Elle a parti avant qu'ils en fait. Il n'y avait pas vraiment de cérémonie, c'était plutôt des gens qui ont partagé quelques mots concernant M. Farshad. Il y avait les travailleurs sociaux qui ont travaillé avec lui, qui ont parlé un peu de lui. Il y avait
des gens qui
connaissaient pas Farshad. En parler de
leur intervention, j'imagine aussi.
C'est ça, exact. Ouais. Ils ont interviewé qui il était et tout ça.
Et le corps de. Le corps
était dans un cercueil. Oui. Apparemment, il y a M. Issa Salim, qui est un Iranien, je pense qu'il est d'origine kurde. Et lui, il est quelqu'un qui s'occupe de ce genre de choses. Apparemment, il a répatrié un certain nombre de corps Turquie, en Syrie et tout ça. Alors, c'est vraiment lui qui a trouvé l'argent.
Monsieur Edgar, ce qui nous intrigue un petit peu, vous savez aussi que le corps était supposé être enterré le lendemain.
Exact.
Hein, le jeudi.
Oui.
Et personne de la population n'était au courant.
Ça semble effectivement que c'était ça. Effectivement, vers 7h30, Jessica Soto de Diogène m'a approché. Puis elle m'a informé qu'ils ont juste reçu des nouvelles que le coroner a trouvé la famille de M. Farshad Mohammadi en Iran. Ça veut dire que.
Ça veut dire à la dernière minute, ils ont avisé, ils ont annulé cette décision d'enterrer M. Farshad.
Annulé ou peut-être, c'est quoi l'autre mot
Prolongé.
C'est ça, parce que c'est pas déterminé. Peut-être qu'il va finalement être enterré ici, mais
ils vont s'assurer d'abord que c'est la famille qui est intervenue. Oui, monsieur.
Oui, je m'excuse parce qu'il arrive parfois, et j'ai vécu ce cas, et il arrive parfois que la famille veuille transférer le corps dans son pays.
C'est ça, exact.
Afin de lui donner un enterrement correspondant à sa religion.
Et ça, c'est une tradition iranienne. Effectivement, c'est une tradition soit iranienne, soit musulmane, que le corps retourne à son village natal.
Et dernière seconde, monsieur Edgar, vous avez communiqué aussi. Si l'hommage a communiqué avec le consulat iranien, c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse?
On a essayé de trouver comment le coroner
était informé.
C'est ça. Oui. Puis c'est pas très clair, mais ça semble que c'était le ministère des Affaires externes d'Iran qui a trouvé la famille puis a informé.
Ils ont retracé la famille, ils ont informé le coroner.
C'est pas absolument certain, mais c'est plutôt ça. Mais il y a une chose, j'ai parlé avec un représentant de l'ambassade d'Iran et eux, il veut une explication de qu'est-ce qui s'est passé.
Ce n'est pas juste eux, c'est toute la population.
Non, mais eux, ils sont très forts là-dessus.
Ils insistent
sur une explication. Ils veulent voir le rapport de coroner. Ça, c'est tout à fait en accord avec ce qu'on veut. Alors, je pense que
je peux vous citer un cas qui s'est passé avec le Maroc, de Marrakech, et le monsieur qui avait été tué dans un poste de police ici, qui s'appelait Mohamed, justement. Ce qui est arrivé, c'est que le coroner avait fait un rapport ici comme quoi il s'était pendu. Alors que lorsque le coroner de son pays a fait enquête, il s'est rendu compte qu'il a été étranglé.
Écoute,
une dernière chose.
Vas-y, mais rapidement.
L'ambassadeur, une chose, il a parlé de le profilage racial. Dans sa tête, il pense qu'il y a peut-être une question de profilage racial.
C'est un petit peu plus grand que ça, j'imagine. J'aimerais bien clore ce sujet-là. Et je reviens, vous savez, chers auditeurs, chers auditeurs, que nous avons avec nous une victime. De brutalité policière. La dame qui est devant moi, elle est comme j'ai dit, elle travaille au milieu carcéral. Pour le moment, elle ne veut pas divulguer son nom et on respecte ça. Donc, on appellera Olga, si, c'est ça, madame? Mm-hmm. Bonjour, madame Olga. Bonjour. Merci d'être ici. Si j'aimerais savoir, vous travaillez dans le milieu carcéral depuis combien de temps?
4 ans.
Depuis 4 ans. Et je sais que si vous êtes une mère d'une jolie fille qui
est. Oui, âgée de... vous avez vu sa photo.
Oui, 14 ans parce qu'on
charmant,
a fait une.
Oui. Ouais,
est-ce que pouvez-vous nous dire aujourd'hui pourquoi vous êtes ici aujourd'hui?
Ben, à mon humble avis, je pense qu'il faut dénoncer les actes de brutalité, les actes incorrects, ce qui cloche dans la société. On est en train de subir de la terreur.
Oui.
Et ce que je trouve complètement normal dans un pays où il devrait faire bon vivre.
Oui.
Je pense que le rôle des policiers est de protéger la société et non pas de l'abîmer.
Oui, oui.
Et non pas de générer de la crainte et... des blessures.
Donc, revenons un petit peu directement à l'événement qui vous a causé un tort.
Juste, j'aimerais vous interrompre au sujet de l'Iranien qui est décédé dernièrement.
Oui.
Premièrement,
l'itinérant, vous parlez,
monsieur
Farshad,
oui.
Farshad, pardon.
Farshad. Alors,
oui.
J'offre mes sincères condoléances à toute la communauté iranienne. Vous êtes très peu à Montréal.
Oui.
Une de mes collègues est iranienne.
Oui, OK.
Je la salue.
Ça vous a choqué aussi, j'imagine, cette...
Ça m'a fait mal physiquement.
Oui, tout à fait.
J'ai eu de la difficulté avec ma pression artérielle parce que je subis plein de douleurs et ça m'a fait honte.
Oui, exactement.
J'ai honte de la police, vraiment.
Vous n'êtes pas la seule. Madame Olga, revenons un petit peu à l'événement. Je sais que vous n'êtes pas une fan d'aller au... combien de fois vous allez danser les samedis soirs? Ça vous arrive souvent ou très rare?
Moi, je dirais une fois par année, à peu près.
Pour aller, OK.
Oui.
C'était bizarre. Et la dernière fois que vous étiez allé, c'était le samedi 19 novembre, si je ne me trompe
oui,
pas?
Oui, exactement.
C'est le samedi 19 oui. novembre. Vous étiez allé dans un place de danse pour danser.
Voilà,
pour
c'est s'amuser, un bar 40 plus.
Pour s'amuser un petit peu.
Pour danser.
Et qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas?
J'ai dansé.
OK.
J'ai dansé, puis on m'a fait danser. J'ai dansé la salsa avec des femmes du West Island. J'ai dansé avec un musicien sur des musiques des années 80. C'était excellent.
Jusqu'à où vous avez eu, vous avez rencontré quelqu'un?
J'ai rencontré un ex-détenu est venu me rencontrer.
Oui.
Alors, il se présente comme étant M. X et qui débarque de Donnacona pour avoir tenté de tuer un policier. Et là, il me dit ça à moi pour se présenter afin de me crouser, puis il m'offre un verre. Je lui ai dit, j'ai déjà un verre.
Et, vous avez rejeté la proposition.
Oui, je ne suis pas là pour causer. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Là, c'est bon. Et là, j'ai dit, viens ici, mon chéri, on va aller parler dehors parce qu'on ne fera pas un scandale à l'intérieur. Je vais te donner mon opinion.
Parce que vous allez essayer de comprendre pourquoi ils interpellent
comme ça. C'est pas gagnant, premièrement. Et deuxièmement,
on ne
sait jamais à qui on parle.
Mais dans le climat de la musique et tout, vous avez préféré d'aller à l'extérieur pour bien discuter. Excellent.
On s'entend mal, puis deux, je ne vais pas faire de scandale. Je vais lui donner mon opinion.
Vous êtes sortie dehors, qu'est-ce qui t'est arrivé, madame?
On a discuté très fort, j'ai mis mon opinion, puis lui, il me disait, mais j'ai fait mon mea culpa, ma fille est policière, puis l'autre criminologue, j'ai dit, mais ça n'a rien à voir. Ensuite, on a discuté, j'ai discuté très, très fort, mais on est rentré
Le temps, j'imagine, est revenu à l'ordre normal.
Oui,
et tout.
Oh, oui, on a fait la paix. Je voulais émettre mon opinion, je ne voulais pas le battre. Là.
Voilà.
Je pesais 102 livres à l'époque.
Oui, mais je vous vois devant moi, là, vous êtes très maigre. Vous êtes revenu à l'intérieur.
Et le directeur de la discothèque, avec son tueur à gages, le portier, je me trompe toujours.
Oui, ben, j'imagine.
Alors,
traumatisé un petit peu.
Je buvais mon verre, puis je parlais encore à Monsieur X de Donnacona, et puis là, il me dit, il y a un problème ici, moi et Monsieur X.
Le propriétaire qui vous approche, il vous dit, est-ce qu'il y a un problème ici?
Oui, fait que là, je dis, non, on discute, puis là, moi et Monsieur X, on serre la main, puis on s'embrasse sur les joues, et le tueur à gage, le portier, il m'a pris par le cou, il m'a soulevé de terre, j'avais les deux jambes qui ballottaient, et il m'a poussé sur le trottoir du mois d'octobre. C'était un peu frais.
Ils vous ont expulsé, quoi.
Expulsé.
Oui.
Là, ils ont pris mon manteau, mes trucs. Mais ils ont gardé ma carte de crédit. En passant, ça coûte 107 $ des verres de vin à ce bar-là. On ne va pas là, c'est trop cher.
Oui.
Donc, j'atterris sur le trottoir et qui m'attend? Toute mon équipe de supporters, la police, l'ambulance, tout le monde est là.
Ça veut dire qu'il y avait un appel déjà.
Oui, c'était déjà fait, là.
Oui, oui.
Alors, le petit jeune à la prostate, qui était le policier, je l'appelle comme ça parce que j'aurais pu être sa mère. Me pousse, puis il me dit, hey, Claire, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non. Puis il me pousse sur l'épaule. Personne n'aime ça, se faire bousculer comme ça.
Mais est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi ils veulent vous arrêter? Hein?
Non, on me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je dis, bien, vous allez me le dire, parce que moi, je trouve qu'il ne s'est rien passé de tout croche, là. Alors, il me pousse, puis bon, je
mais pourquoi il vous pousse,
nom,
madame?
Olga, là.
Madame Olga, pourquoi il vous pousse?
Parce qu'il me dit de me calmer, mais moi, je viens de me voler par terre, là. Ça a fait un peu mal, puis j'ai toute la foule qui me regarde. Je donne un super spectacle gratuit, là.
OK.
Et puis là, ils continuent à m'appeler Olga, Olga, Olga. Je dis, non, non, c'est pas Olga, c'est Madame Soto. Hein? Et puis non, elle me dit de me calmer. Puis là, sa compagnonne policière, elle regarde par terre, parce que j'imagine que ça doit pas être agréable de regarder une concert, tu sais, là, un sexe féminin se faire battre par un collègue policier. Ça doit pas être super le fun. Bref, là, il demandait la version à tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé, mais personne ne s'est rien passé. Alors là, je pense qu'ils ont inventé une version avec le tueur à gages puis l'autre, là. Le directeur du bar, là, M. Grec, là, quelque chose, là. Et puis là, ils m'ont tabassé, ils m'ont mis la face à terre, j'ai eu un...
Comment, ils ont voulu vous maîtriser, vous ont arrêté,
oui,
quoi.
Oui, ils voulaient m'arrêter, puis moi, je voulais pas être arrêtée, ben j'ai rien fait de mal.
Parce que vous ne comprenez pas pourquoi
ben
ils veulent vous arrêter.
Ben non, je n'ai pas envie d'être arrêtée, j'ai le goût d'aller prendre mon verre de vin à l'intérieur.
Oui. Donc, eux, ils ont insisté, vous avez refusé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils t'ont basculé par terre?
Basculé par terre, les menottes au dos, la tête semi-craquée, petit cadeau en torse cervicale.
Oui.
Ensuite...
Est-ce qu'il y avait des blessures à part
bien
ça?
Bien sûr, j'ai des cicatrices et j'ai des bleus. J'ai pris des superbes photos. Je les ai montrées à mon médecin.
Vous avez demandé aux policiers, Madame Olga, comme quoi, arrêtez, là, je n'ai rien fait de grave, de mal.
Oui, et quand il poussait avec ses jambes sur mes cuisses en arrière, il poussait sur mon cou pour être sûr de me donner une entorse, mais pas me faire de blessure au visage, je dis, criais, ça fait mal, arrête, puis il poussait plus fort.
Oui.
Et là, je criais au public, prenez des photos. Puis personne ne prenait de photos parce qu'ils veulent retourner danser là, eux. C'était assez fantastique.
Mais je veux savoir, Madame Olga, si vous me permettez, une fois à cette arrestation, vous étiez, les avez les menottes et tout. Ils vous ont transporté dans une voiture de patrouille ou...
Ben là, ils cherchaient une raison pour m'arrêter. Fait qu'ils m'ont poussé dans la voiture de police. Ils m'ont cogné la tête au lieu de me la protéger. J'étais menottée au dos. Et on sait que le pitch d'un backseat de police, c'est pas très large. Mais là, ça me piquait au visage. Alors moi, j'avais les menottes au dos et je me suis glissée les jambes vers les bras, pardon, avec les menottes pour avoir les mains devant et me gratter.
Le visage.
Parce que ça me piquait.
Oui. Et les policiers, quand ils ont vu ça, ils n'ont pas aimé ça.
Ben là, ils ont vu que je m'étais quasiment détachée comme le magicien machin, là.
Oui.
Là, ils ont trouvé que ça n'allait pas, là. C'est parce que moi, avant cette brutalité-là, je faisais à peu près tous les sports de la planète, sauf le golf. Oui. Ben, c'est plate, le golf, là.
Mais Mme Olga, je veux savoir maintenant, une fois, ils vous ont conduit, tu m'as dit, ils ont conduit à l'hôpital ou ils ont transféré
débarqué du char de police.
Ils ont transféré dans une ambulance.
Dans la limousine, pardon, l'ambulance. Puis là, dans l'ambulance, ils se demandaient s'ils devaient m'attacher du haut de mon sang de lit. Moi, j'ai dit, écoutez, au lieu de vous ostiner à savoir si vous me menottez doublement, triplement, puis je sais pas quoi, là, je dis, apportez-moi un verre d'eau. Ils n'ont pas voulu. Ben, je vais en prendre un avec de la lime. Ils n'ont pas voulu. Ben, je veux un verre de champagne d'abord. Ils n'ont pas voulu. Puis là, j'ai dit, apportez ça, j'ai les frettes, là. Pouvez-vous m'apporter une couverture? Puis là, on l'attache-tu pas? Hey, c'est arrêté de gonner, puis amenez-moi quelque part. Puis j'ai apporté ça, on s'en va chez nous. Ils disent, ben non, tu t'en vas à l'hôpital. Je dis, ah ben. À quel hôpital? Ils disent, on ne sait pas. Je dis, ben, j'aimerais ça le savoir, à moi. Fait que finalement...
Mais pourquoi ils vous appellent plus tard? Parce que vous avez demandé...
Non, c'est eux autres, c'est le processus
c'est eux
normal.
Qu'ils ont dit, c'est
ils t'abattent, après ça, ils t'amènent à l'hôpital.
Exactement. Quand ils vous frappent, moi, quand ils m'ont agressé, là, ils ont voulu m'amener à l'hôpital. J'ai dit non, je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire.
Non, mais moi, il a fallu que j'y aille à l'hôpital, moi, parce qu'ils m'ont pas donné de numéro d'événement, n'est-ce pas?
Ouais, c'est
fait
ça.
Que là, à l'hôpital, ils ont dit encore une autre brutalité policière. Tadam!
C'est magnifique. Et là, vous êtes rendu à l'hôpital et j'imagine à l'urgence, il y a un médecin d'urgence qui vous a consulté.
Pas vraiment, parce que la salle d'urgence, ça déborde. Il y a des bras arrachés, ça saigne, ça pue, c'est lettre, ça va pas bien. Et c'est un samedi soir, donc il y a la drogue du sexe, machin, il y a un gars qui s'est fait droguer, il est en état de choc. Il y a des cas bien plus graves que moi, là.
Je comprends, mais est-ce que vous êtes toujours ménoté à ce moment-là ou non?
Non, ils m'ont déménoté à l'hôpital, j'avais les poignets super enflés, écoute, ça faisait mal. Là, là l'infirmière. J'ai pas eu le numéro d'événement, j'ai un fisciste. Alors, il y a une.
Est-ce que vous avez demandé, ils ont refusé de vous donner d'événement?
Ben, je savais même pas que ça marchait de même. Je me fais pas arrêter à chaque semaine, non?
C'est ce qu'ils ont fait avec moi. Lorsque je leur ai demandé, donnez-moi vos matricules, ils ont pas voulu. Vous allez recevoir votre billet chez vous.
Mais le matricule n'est pas.
Ben, moi, j'ai reçu la facture de l'ambulance. J'ai reçu deux factures de l'ambulance chez nous, mais j'ai pas eu de numéro de matricule, voilà. Rien pantoute.
Exactement.
Ils m'ont comme oublié. Ils pensent que je suis en train de rien faire, là, de brailler sur mon sort. Ben, je pense pas.
Madame Olga, une fois, vous étiez à l'hôpital et les policiers, ils ont conduit jusqu'à l'hôpital, après, ils sont partis, c'est ça?
Non, ils sont restés dans ma chambre, ils voulaient me voir de me déshabiller.
Ça, c'est... Ça, je...
Puis là, l'infirmière a dit, mais non, madame a raison, elle a besoin de son intimité, sortez de là.
Oui.
Et après, j'ai été intimidée dans l'ambulance aussi, oui. Hein, parce que la directrice de l'ambulance, la grosse connasse, là, elle me disait, bon, un autre folle, la soirée va être longue. Je dis, quoi, folle? Hey, c'est Madame Soto.
Oui. Mais Madame Olga, une fois les policiers sont partis, est-ce qu'ils vous ont donné une contravention?
Non, ils m'ont même pas serré la main, même pas. Rien.
Ils ont serré les poignets, par exemple.
Oui. Le cou et le reste.
Mais est-ce qu'il y a des charges contre vous?
Ben non.
Il n'y avait aucune charge contre vous.
Ben sais-tu, moi, j'ai rien dessus.
Mais non.
J'attends.
Donc c'est quoi, comment vous appelez ça? C'est gratuit, on vous amène là-bas, on vous tabasse et puis on vous lâche ou quoi?
Ben, c'est commencer leur soirée, ils ont commencé sans beauté. J'imagine ce qu'ils font aux itinérants puis aux prostituées. Mon Dieu, les corps morts, là, ça doit être un de ceux-là, là, ce petit jeune qui vient de commencer et arrêter sa carrière, n'est-ce pas? On veut que ça arrête, ça?
Alors moi c'est ça que je trouve dégueulasse, en définitive, c'est qu'ils ne laissent pas leur matricule. Ils ne laissent pas leurs traces.
Ils en ont laissé des traces. Un entorse cervicale, des bleus.
Oui, ça, là, sur votre corps. Mais ça, c'est vous qui pénétrez.
Puis psychologiquement, mettons, quand je vois une voiture de police, ça ne me tente pas de marcher du même côté.
Un petit peu traumatisé, j'imagine. Oui, c'est tout à fait dans tous les cas. Mais nous, on a quand même... oui, Edgar, vous voulez faire quelque chose?
Concernant le matricule, j'étais au Occupy Montréal, octobre-novembre.
Ouais.
Puis à un moment donné, j'ai parlé avec deux policiers qui sont intervenus parce qu'il y a eu un plein contre quelqu'un. Puis un des policiers m'a montré son badge avec son nom. C'est un badge noir avec l'écriture blanc.
Avec un numéro aussi, j'imagine?
Non, c'est juste son nom. Je parle de son nom.
Ils ne sont pas supposés avoir ça.
Non.
De toute façon, Il a mis un crayon noir. C'était tout noir là. C'était pas possible de
l'effacer.
Il était fier de ça. Il m'a montré ça. Il m'a montré que c'est ça.
Et comme quoi tu peux pas rien lire finalement.
C'est ça.
C'est
exactement.
La police secrète. Et
il était très fier de me montrer ça que il n'était pas identifié.
Mais il faut toujours, chère auditrice, chère auditeur, rappeler que ce n'est pas tous les policiers qui sont comme
ça.
Non.
Il faut faire attention. Et nous avons des très excellents policiers.
Ah oui, il y a des bons pères de famille.
Très bonnes familles.
Qui doivent avoir bien honte de cette génération.
Il
y en a dans la vieille génération des hommes pourris, il y en a dans la jeune, il y en a partout.
Nous avons informé aussi notre invité d'aujourd'hui, Mme Olga, qu'on va faire les démarches pour obtenir justement les références du policier et on va déposer une plainte à l'identité du policier certainement. Mais quand même, nous, on est vraiment fiers que vous avez quand même partagé avec le public, dénoncé certaines attitudes.
C'est important de le faire. Oui, c'est important. Il faut aller chercher des ressources.
Oui.
Il ne faut pas poser des gestes tout seul. Il faut se rallier. Et des organismes comme le MAJ, il y en a plein d'autres, le CAVAC, l'IVAC, il faut y aller. Il ne faut pas rester tout seul chez nous, avoir peur qu'à guérir ses plaies, tout seul.
Il
ne
faut pas garder
seul.
Le silence comme ça.
Il faut pas garder. Il faut dénoncer haut et fort parce que le but, c'est d'être entendu, d'être écouté et que ça cesse. Parce que je ne suis pas la première et malheureusement, je ne suis pas la dernière.
Ouais.
Mais on va-tu changer le monde pour que la police revienne à nous protéger plutôt qu'à nous agresser?
Vous, finalement, vous demandez quoi? Le respect?
Je demande le respect.
Oui, c'est la moindre
chose. Je veux avoir confiance en ma société.
Oui.
Quand tout le monde est corrompu, quand les policiers nous battent, quand les juges, on est jugés d'avance, quand les avocats travaillent plus fort pour les criminels que pour les simples citoyens, ça va pas.
Oui.
Ça ne va pas. Et quand les détenus, ex-détenus ont plus de droits que le citoyen ordinaire, ça ne va pas. Ça ne va pas.
Il y a autre chose qu'il faut citer aussi, madame. Savez-vous que maintenant, le syndicat décide pour la police?
Bien sûr.
Et alors, moi, ça fait 3 ans que ma cause est en cours.
Bien sûr.
Et 3 ans qu'on n'entend pas parler. Alors, ils écœurent le monde et le syndicat dit non, oui, vous ne répondez pas à cette cause-là, vous ne vous rendez pas au palais de justice.
Ça suffit.
Voilà la société que nous avons.
Ça suffit.
Le syndicat qui fait ça, qui est complice des mauvais actes.
Mais on a un espoir aussi avec l'arrivée de M. Marc Parrain, quand même. C'est un homme qui a une bonne foi.
S'il ne se fait pas bâillonner.
Non, écoutez, on a eu dernièrement, moi j'ai éclaté la dernière fois, on a eu un monsieur de SPVM, un haut gradé libanais, qui est venu nous expliquer que les injustices sociales et autres, et discriminations raciales et autres,
blablabla,
ça devait cesser, puis qu'ils y faisaient le nécessaire.
On sait ça.
Tout marchait bien.
Oui.
Tout d'un coup, je le rentends, il est invité à MAJ à la télévision.
Oui.
Tout d'un coup, son opinion a changé. Naturellement, il faut que le syndicat soit d'accord.
Le syndicat,
mais
alors...
qui est ce syndicat? Est-ce que c'est une mafia?
Oui, mais c'est quoi l'intervention du syndicat?
Il faut faire une injonction immédiatement. Ce syndicat doit s'occuper du code du travail et puis de la convention collective. Mais ouais. Non, pas des crimes qui ont été faits par des policiers.
Ils sont trop partout, trop forts. Et
voilà.
Et puis on paye pour eux, puis voilà. On perd pour partout. Ça
ou alors,
pas.
Il faut enlever le syndicat aux policiers. Une ben, fois pour
toutes. Pas juste aux policiers, monsieur.
Ça n'a pas d'allure.
On va juste faire une petite pause musicale, là, très rapidement. On revient pour la fin du fin d'émission.
Préparez vos fusils et créez vos milices. Nostalgiques du tir et chasseurs sans gibier. Des fois que des loups-bars viendraient dans le quartier. Suivez votre penchant, soyez de la police. À l'abri des volets de vos pavillons tristes. Meublez vos insomnies jusqu'au jour incertain. Car la rue est peuplée de sombres anarchistes. De noirs, de portugais et de nord-africains. Vous êtes français, français à part entière, même ancien combattant et parfois résistant. Et cet obscur chemin de torture et de sang, certains le referaient s'il était à refaire. Vous avez mérité avant le dernier souffle de vivre dans le calme et la tranquillité. D'endosser vos gilets, de chausser vos pantoufles et de fermer les yeux sur la réalité. Mais la réalité déferle à votre porte. Vous ne comprenez rien à sa vague rumeur. Et vous confondez tout, parfois vous avez peur d'un signe avant-coureur que le vent vous apporte. Vous percevez.
Voilà donc, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs. On revient, nous sommes vers la fin de notre émission. Je reviens avec M. Edgar Robin qui a enquêté pour le compte dommage sur l'événement et la mort tragique de M. Farshad. M. Edgar, qu'est-ce que vous pensez maintenant la situation, elle est où maintenant?
Ouais, c'est un peu flou, hein. C'est pas grand-chose. On n'a pas vu les vidéos. Il devrait y avoir des vidéos de surveillance dans la station. On n'a pas vu ça. C'est la même chose pour Mario Hamel. L'événement de Mario Hamel a été filmé par les caméras de sécurité de l'UQAM il y a presque un an, au moins 9 mois, et on n'a rien vu de ça.
Vous demandez pourquoi l'autorité, ils ne veulent pas diffuser ces preuves-là.
Le public a un droit de voir les vidéos. Oui. Ils ont le droit de savoir la vérité. Oui. Je pense que le processus doit être très transparent et ce n'est pas du tout transparent.
Et justement, c'est le public qui réclame de voir la preuve aussi.
Qui paye pour la police.
On n'a plus entendu parler du jeune Limoges qui a été tué, là, le père de 4 enfants. Comment ça a été réglé? Est-ce qu'on est renseigné? Non. Les journaux s'en occupent plus, la télévision s'en occupe plus, la police masque tout, on n'entend pas. Combien que ça a coûté dédommager cette famille?
C'est parce que c'était un itinérant, quoi.
C'était pas un itinérant, c'était un bon père de famille qui travaillait.
On parle de l'itinérant. Il s'appelle
Monsieur Hamel.
Et
puis Monsieur Limoges, qui a été tué.
Madame Olga, qui a, je comprends qu'on respecte, elle n'a pas voulu divulguer son nom. Avez-vous quelque chose aujourd'hui à dire aux citoyens?
C'est très, très, très important.
Même ça sera une répétition.
Premièrement, bonne année. Bonne année.
Merci.
Prenez soin chacun l'un de l'autre. Puis à tous ceux qui font du mal psychologiquement, physiquement aux autres, dites-vous bien que la personne que vous agressez, c'est l'enfant de quelqu'un.
Oui.
Et c'est probablement une mère de quelqu'un ou de quelques-uns ou le père de quelques-uns.
Oui.
Et que si ça vous arrivait, ce serait triste et difficile à gérer. On ne carbure pas à la colère, on carbure à l'amour. Donc on frappe pas les uns sur les autres. On est censé serrer la main puis s'entraider. On n'est pas là pour se faire du mal. C'est déjà assez difficile comme ça, juste d'être en hiver au Québec, on s'entend que c'est pas évident.
Oui,
alors, si en plus, on se donne des jambettes, bien là, l'urgence déborde déjà. Fait qu'on y va plus à l'urgence.
Oui.
OK?
Oui.
Fait que, levez-vous, tout le monde, quand vous avez quelque chose à dire. Entourez-vous, allez voir les organismes en place, allez voir la police, pas de suite. Là.
Être solidaire, peut-être, l'un
soyez,
vers l'autre. Solidaire.
Faites confiance à ceux qui méritent la confiance. Donc, vous savez qui cloche dans la société, bon, ben levez-vous debout, allez à la bonne place, c'est tout.
C'est vraiment, vraiment un grand merci pour vous, Mme Olga, d'avoir vraiment partagé avec nous et avec le public votre avis et puis votre opinion.
Ça
et
me fait pas
votre...
plaisir, je trouve ça important. Il n'y a pas de plaisir là-dedans.
Oui, c'est bien, mais c'est un devoir. Vous pensez que c'est, c'est votre devoir, ce qu'on pense nous aussi. Dernier mot, monsieur
Alors moi, Roland. Au nom de monsieur Roland Cazès, je prétends, et ça je prétends que le syndicat ne doit pas agir de la façon dont il agit. Parce que c'est normal.
Le syndicat de la fraternité policière.
Oui, la fraternité policière ou la confrérie policière plutôt. Parce que de la façon dont ils agissent, c'est de la complicité. Et je dis au syndicat, rangez-vous ou le peuple va demander un certain moment qu'il n'y ait plus de syndicat à la police.
Vous demandez simplement
que vous imaginez des soldats syndiqués qui arrêtent de faire la guerre et qui disent on se met en grève. Imaginez. Voilà ce que ça donne, la police.
Dernier mot, Edgar, vous avez quelque chose à dire? Dernier mot, ou vous n'avez rien à dire?
Je pense que c'est toujours une question. On veut savoir la vérité de qu'est-ce qui s'est passé, soit avec M. Fachad Mohammadi dans le métro Bonaventure, aussi
de...
avec le cas de Mario Hamel, qui se date d'un bon 8 mois.
Il y a plusieurs victimes, c'est pas, on sait que c'est
et puis l'innocent aussi.
C'est pas tout de prôner la transparence, il faut l'appliquer.
Eh oui, Patrick Limoges qui a été tué injustement, père de 4 enfants.
Voilà, donc, chers auditeurs, c'est tout le temps qui reste de cette émission, malheureusement. J'aimerais remercier notre invitée, Madame Olga, d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. Merci à mes collègues Roland Cazès et Edgar Robin pour leur précision et leur information, ainsi à notre technicien de son, Madame Rosemonde Legault, sans oublier Clara. À Radio Centre-Ville 102.3 FM, on dit merci de nous avoir cédé cette fenêtre afin que la parole de l'autre existe. À moi, chère auditrice, chère auditeur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Au revoir.
Sur le boulevard du crime, pour voir la pantomime, ce soir on se bouscule au théâtre des funambules, les amours de Pierrot. Ça fait pleurer Margot et rire dans la tourmente le Paris de 1830. Masque sans bergamasque pour des danses fantasques et la foule coasse au milieu du carnaval des grimaces. Mais dans la foule qui rit de Pierrot, il y a toujours un arlequin. Dans la vie, faut des arlequins, sans quoi l'amour, ça ne serait que des mots. Aussi lorsque Pierrot sourit, c'est là-haut vers les amants du... du crime pour voir la pantomime. Ce soir on se bouscule au théâtre des funambules, les amours de Pierrot. Ça fait pleurer Margot et rire dans la tourmente le Paris de 1830. Masque sans bergamasque pour des danses fantasques.
Que de donde son, que de donde son, que son de la barricada.
Queremos mandar un saludo de parte de los zapatistas.
Toutes les voix décidantes en faveur d'un changement social. En bas, à gauche. Des nouvelles de la résistance tous les mardis matins 9h sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
TD présente Fondue au Noir en collaboration avec Astral du 1er au 25 février. Célébrez le mois de l'histoire des Noirs en cinéma, danse, musique racine, jazz, gospel et musique du monde. Découvrez les soirées cinéma Astral au cinéma ONF et les grands spectacles TD au cabaret du Myland avec Sylvie Desgroseilliers, Charles Biddle Jr., Wesley Makaya, la chorale CCMM et plusieurs autres du 1er au 25 février. Billets et programmation fondueaunoir.ca, un événement de la Fondation Fabienne Cola.
Dimensión Cubana, una emisión de la tabla de concertación de solidarité que ve Cuba, tous les mardis à 21h40.
Entrevue, musique,
informations sur la réalité cubaine, tout ce que les médias traditionnels ne vous disent pas, et des invitations aux diverses activités sur Cuba réalisées à Montréal.
À Radio Centreville, 102,3 FM.
Insérez une plaque porte-clé des amputés de guerre dans votre trousseau de clés par mesure de sécurité. Si vous perdez vos clés, l'association pourra vous les retourner par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés au 1-800-250-3030 ou à amputedegare.ca.
Radio Centreville permet à chacun de comprendre et de participer à la recherche de solutions pour créer une meilleure cohésion sociale. Faites un don à Radio Centreville en visitant le www.radiocentreville.com.